Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous ce soir pour cette cinquième rencontre du cycle proposé par la librairie Mola à l'occasion du cinquantenaire de mai 68. Après Jean-Pierre Le Goff, le 6 mars, qui était venu nous présenter son livre « La France d'hier, récit d'un monde adolescent des années 50 à mai 68 », publié chez Stock, Ludivine Bantini, qui était venu nous présenter le 22 mars 1968 de grand soir en petit matin aux éditions du Seuil, Nicolas Patin et Ophélie Rion, qui avaient évoqué en avril un mai 68 comme phénomène mondial. Et je rappelle à cette occasion que toutes ces rencontres ont été enregistrées et sont disponibles en podcast sur notre site internet www.mola.com. Et ce soir, nous allons nous intéresser particulièrement aux prémices de mai 68 et aux origines théoriques d'une partie du mouvement, en évoquant l'histoire de l'Internationale situationniste, de son influence et de comment l'organisation artistique d'avant-garde est devenue progressivement une organisation politique que l'on peut qualifier de révolutionnaire. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Patrick Marcolini, qui est l'auteur du livre dont on va parler aujourd'hui, Le mouvement situationniste, qui est un livre qui a été publié en 2013 aux éditions L'Échappée, qui est un livre qui parle de, qui est une histoire intellectuelle du mouvement. Patrick Marcolini, vous êtes maître de conférence à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, vous êtes historien des idées et directeur collection Versus, toujours aux éditions L'Échappée, collection qui entend retrouver l'énergie qui a animé par le passé les courants intellectuels les plus hostiles au capital et aux machines, pas pour la figer dans un muséum de la théorie, mais pour la prolonger dans l'époque actuelle et redonner des armes à ceux qui n'acceptent pas le monde tel qu'il est. Collection dans laquelle on retrouve des textes d'auteurs variés, comme Martin Buber ou Edward Thompson, et de jeunes auteurs comme Renaud Garcia, qui sont des auteurs de théorie critique contemporain, et ainsi que des textes sur notamment Cornelius Castoriadis, que nous évoquerons un peu plus tard dans cette rencontre. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la rencontre de ce soir, qui est cette influence des situs sur mai 68, il me paraît important, pour bien comprendre, et parce que les mots sont importants, à la fois dans cette histoire de l'internationale situationniste et des idées qui ont été souvent mal comprises à la suite justement de mai 68 et un peu de l'intérêt médiatique qu'ont suscité les auteurs et les activistes de l'IS. Donc ma première question, qui est une question très très vaste, est-ce que vous pouvez nous présenter l'internationale situationniste et sa figure la plus marquante, Guy Debord ?
Merci, merci à tout le monde d'être venu, merci à la librairie Mola et puis donc à vous Sylvain pour l'invitation. Et ben, je vais essayer de résumer ce qu'est l'internationale situationniste en donnant une sorte de définition qui suit son mouvement historique, c'est-à-dire que c'est à l'origine un mouvement artistique qui naît au début des années 1950, à la confluence de différentes avant-gardes venues du surréalisme, du lettrisme. C'est un mouvement qui cherche dans son premier temps à dépasser l'art, fusionner l'art et la réalité, ce qui est une thématique assez classique des avant-gardes de l'entre-deux-guerres et qui est reposée d'une nouvelle manière dans les années 1950. Et puis, au fur et à mesure que les années passent, dans cette recherche d'un moyen de dépasser l'art, le mouvement situationniste va progressivement se transformer en un mouvement politique, avec au départ une utopie de transformation sociale radicale, et puis la recherche d'une analyse critique de la société contemporaine et des possibilités de pratique de la transformer. Donc au terme de cette trajectoire, à la veille de mai 68, le mouvement situationniste, c'est d'abord et avant tout un mouvement révolutionnaire. Les situationnistes parlaient de passer au dépassement de la politique, après le dépassement de l'art. Donc le dépassement de la politique, c'est ça, c'est faire la révolution, et faire la révolution ici et maintenant dans la vie quotidienne. Ce qui fait qu'ils vont assumer effectivement un rôle très important en mai 68, qui est un rôle qui est aujourd'hui un peu oublié, un peu méconnu, je dirais même parfois occulté. Y compris par les historiens, ce qui est un paradoxe, mais on pourra revenir sans doute là-dessus après. Et le mouvement, après mai 68, décline très rapidement, on pourrait dire se saborde d'une certaine manière, c'est une dissolution volontaire de la part des situationnistes, c'est-à-dire qu'en quelques années, ils entament un débat approfondi sur leur activité, sur le renouvellement de leur activité et de leur théorie, et puis ils finissent par mettre fin à leurs activités collectives. Dans l'année 71 et en 72 sort un texte qui signe la fin, l'acte de dissolution du mouvement situationniste. Ce qui ne veut pas dire que les situationnistes individuellement cessent leurs activités subversives. Dans les années 1970, il y en a plusieurs d'entre eux qui continuent à penser, à agir au sein de nouveaux collectifs. la plupart du temps des collectifs d'action radicale, d'action révolutionnaire. Certains reviennent à la sphère artistique. Et ça continue comme ça. Dans les années 70, 80, une bonne partie d'entre eux sont toujours vivants aujourd'hui, toujours vaillants. Ça aussi, on pourra éventuellement en parler. Donc le mouvement situationniste ne se réduit pas à l'histoire de la seule internationale situationniste qui, elle, a existé entre 1957 et 1972. C'est un mouvement qui prend naissance avant et qui continue ses activités pendant au moins deux décennies ensuite.
Alors, qui commence par une première scission chez les lettristes, où un groupe crée une internationale lettristes et une revue qui s'appelle Potlatch, qui pose déjà les bases de ce que va être le mouvement situationniste par la suite.
Oui. Alors, j'ai dit que le mouvement naissait à la confluence de plusieurs avant-gardes artistiques de l'après-guerre. Donc, il faut pas être trop franco-centré, c'est souvent la tendance qu'on a sur le mouvement situationniste. Beaucoup de choses, quant au mouvement, se sont passées à Paris en particulier, mais il y avait aussi d'autres branches ailleurs. Donc, il faut rappeler, juste avant d'en arriver aux lettristes, que le... beaucoup d'artistes qui ont fondé le mouvement situationniste étaient issus du mouvement Cobra. Alors je ne sais pas si ça vous parle, le mouvement Cobra c'était un mouvement post-surréaliste. C'est des gens qui, dans l'Europe du Nord, Cobra c'est Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, les trois villes où étaient actifs les membres du mouvement. Donc dans l'Europe du Nord, plusieurs artistes décident de refonder d'une certaine manière le surréalisme, de le ramener un petit peu à ses sources d'inspiration originelles. C'est-à-dire le rêve, l'art des enfants, un certain primitivisme d'une manière générale, l'intérêt pour les folklores, les traditions populaires, et puis une réaction contre la rationalisation des sociétés européennes qui est massive dans l'après-guerre avec les opérations de reconstruction, avec le boom économique, etc. Donc c'est une réaction à cette société-là, et d'ailleurs le mouvement Cobra a lui aussi des engagements politiques très, très assumés. Donc on a parmi les fondateurs du mouvement situationniste des gens qui viennent du mouvement Cobra et qui s'engagent donc dans une nouvelle expérience artistique. On a aussi des Italiens, je ne m'étends pas sur le sujet, qui ont un rôle un peu plus minoritaire à l'intérieur du mouvement situationniste. Et puis effectivement la branche française. La branche française, donc ce sont de jeunes gens, c'est très jeune, souvent entre 18 et 21 ans, qui sont des jeunes poètes, des jeunes artistes, qui souvent se mélangent à la bohème du quartier latin de Saint-Germain-des-Prés de l'époque, qui n'est pas tout à fait celui de Sartre des existentialistes, c'est plutôt le Saint-Germain-des-Prés des marginaux, des petits voyous, des artistes ratés, voilà, c'est ce milieu-là. On a ces jeunes qui fréquentent cette bohème, qui se réunissent d'abord dans un premier temps au sein du mouvement lettriste qui est initié par Isidore Isou, qui est un poète roumain qui s'est installé en France dans l'après-guerre, qui est un peu qui se veut le Tristan Tzara de l'après 1945. Alors pourquoi lettriste? Parce qu'en fait, ils veulent décomposer la représentation artistique, décomposer l'art, déconstruire l'art, un peu comme les dadaïstes l'avaient fait auparavant, mais en revenant à l'élément constitutif de base des œuvres d'art. Donc dans la poésie, c'est la lettre, d'où le lettrisme. Dans la peinture, ça va être le signe graphique, et ainsi de suite. Donc ils cherchent à revenir à ce constituant de base de la création artistique. Mais évidemment, cette opération de déconstruction de l'art, elle se fait aussi dans une atmosphère de scandale. Hein. Il y a toujours cet idéal dadaïste du scandale qui est derrière l'action du lettrisme. Et c'est surtout cet aspect scandaleux qui plaît beaucoup aux jeunes gens qui rejoignent le mouvement. Sauf que, à partir de ce constituant de base qu'est la lettre pour le lettrisme, Isidore Isou, lui, veut reconstruire de nouvelles formes d'art. Il veut rebâtir une nouvelle création artistique. Tandis que les jeunes qui ont rejoint le mouvement, eux, ils sont plus dans une attitude nihiliste, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on a détruit l'art, c'est pour faire autre chose, c'est pas pour recommencer à en faire, c'est pas pour rentrer à nouveau dans l'institution artistique, revenir sur le marché de l'art, faire des œuvres comme avant, etc. Et c'est pour ça qu'il y a cette scission qui se passe, dont vous parliez, scission au sein du mouvement lettriste. Les plus jeunes, et en particulier Guy Debord, qui va être un peu la tête... la principale tête du mouvement dans les années qui vont suivre, Guy Debord et ses amis font une scission, ils se séparent du reste du groupe d'Isidore Izu, évidemment ils le font avec éclat, sinon c'est pas drôle, et puis ils fondent un petit mouvement qui s'appelle l'Internationale Lettriste. Pourquoi international ? Parce que déjà il y a l'idéal de l'Internationale Ouvrière, la première Internationale de Marx, éventuellement la deuxième, mais surtout la troisième, celle de Trotsky. Pardon, éventuellement la deuxième, mais surtout la troisième, celle de Lénine, et la quatrième, celle de Trotsky. Donc il y a cette référence subversive par excellence révolutionnaire qu'est l'Internationale Ouvrière. Donc eux, ils se proclament Internationale Lettriste. Et puis international aussi parce que parmi eux, et ça c'est quelque chose d'intéressant, il n'y a pas seulement des Français, il y a aussi des Algériens. Et que l'Internationale Lettriste, elle se fonde en 1953, elle commence à être visible sur la scène intellectuelle et artistique en 1954. C'est 54, c'est l'année de Potlatch, la revue dont vous parliez. Et 1954, vous le savez très bien, c'est le début de la guerre d'Algérie. Donc avoir des Algériens à l'intérieur d'un groupe artistique, un groupe artistique qui se veut subversif, c'est aussi avoir un autre regard sur la culture et l'actualité française de l'époque. Et les situationnistes, enfin ceux qu'on appellera plus tard, ceux qui s'appelleront eux-mêmes plus tard les situationnistes, vont aussi, dès le début, avoir un engagement fort pour l'indépendance de l'Algérie. Donc ça c'est cette première scission 1954 entre 1954 et 1957 la principale activité de cette Internationale Lettriste ça va être la publication de sa revue Potlatch dans laquelle on trouve une critique de l'urbanisme de l'époque, dans laquelle on trouve une critique des institutions artistiques. Et puis dans lequel on commence à trouver le développement d'une utopie sociale, une forme de société alternative à laquelle on pourrait parvenir. Et puis la deuxième activité importante de l'Internationale Lettriste, et ça c'est intéressant parce que derrière il y a Debord qui est un véritable stratège, c'est la recherche de liens, de camarades, de gens avec qui agir un peu partout en Europe pour constituer un mouvement plus large. Et c'est cette recherche de liens, d'associations avec d'autres artistes, d'autres activistes, qui va conduire à la fondation de l'Internationale Situationniste en 1957.
Fondation qui a lieu en Italie, si oui. Je ne dis pas de bêtises.
Oui, à Cosio d'Arroscia, c'est un petit village près de la côte Ligure.
Plusieurs fois, les situs vont donner des conférences, vont se retrouver. À chaque fois, ils sont très peu nombreux, c'est toujours une dizaine, une quinzaine de personnes. Y a une notion qui est importante dans les premières années des situationnistes, c'est la notion de dérive, hein, qui est déjà une sorte de performance personnelle, puisqu'il n'y a pas de public, une sorte de performance artistique sans public, qui mêle la psychogéographie, ce qu'ils appellent la psychogéographie, donc comment on découvre une ville que l'on connaît, que l'on pratique régulièrement, en essayant de passer par d'autres chemins. Le tout avec beaucoup d'alcool. Hein.
D'alcool et de drogue. Oui, en fait, la dérive, c'est un des premiers... c'est un des premiers symboles, un des premiers repères, une des premières marques du mouvement situationniste dans le champ artistique, avec beaucoup de guillemets artistiques. C'est le fait qu'au début, quand ils fréquentent cette bohème parisienne, ils ont l'habitude de se rencontrer dans des bars, et puis de passer d'un bar à l'autre, d'aller continuer la soirée chez un ami, et puis d'aller se balader un peu au hasard dans Paris. Et puis au fur et à mesure, ils se rendent compte que cette activité-là, elle représente un style de vie à part entière. Elle représente une forme de vie alternative, ne pas travailler. C'est un des premiers graffitis de Debord en 1953, c'est « ne travaillez jamais », donc surtout ne pas travailler. Et dans le temps de loisir ainsi libéré, se balader, marcher au hasard, donc dériver, aller de bar en bar, et puis effectivement au fur et à mesure de la consommation d'alcool, de drogue, alors à l'époque c'est le cannabis qui n'était pas à la mode, et puis l'éther, se laisser aller aussi aux sollicitations du terrain, aux rencontres qu'on peut faire dans telle ou telle rue, se laisser aller aussi en fonction de l'environnement, de l'esthétique des rues qu'on traverse. Il y a des rues qui sont plus ou moins attirantes, plus ou moins repoussantes. Donc on va comme ça évoluer de manière aléatoire dans le matériau urbain. Et puis on va vivre de cette manière-là beaucoup d'aventures. Des aventures qui peuvent même par moments devenir dangereuses si on tombe dans une rue peu éclairée avec des gens un peu louches. Ils se rendent compte que là, dans ce mode de vie-là, il y a quelque chose de passionnant. Il y a un moyen de réenchanter la vie quotidienne. et que finalement, ça serait une forme de vie qui pourrait être généralisée aux sociétés modernes, dans la mesure où, c'est l'analyse des situationnistes à l'époque, dans la mesure où ces sociétés ont tellement développé leurs infrastructures matérielles, elles ont tellement développé leurs moyens de production, l'automatisation des usines notamment, qu'on pourrait se libérer du travail. Et donc il y a ce rêve comme ça d'abolir le travail et de se consacrer uniquement à la dérive. À la dérive, et puis à une deuxième chose, qui est ce que les situationnistes appellent la construction de situation. C'est pour ça qu'ils vont prendre le nom de situationniste assez rapidement. Qu'est-ce que c'est la construction de situation ? C'est le fait qu'au bout d'un moment, on ne peut plus laisser au hasard le soin de construire les moments que l'on passe dans la ville, à la rencontre des personnes. Il faut essayer d'imaginer un arrangement, un agencement préalable de tous ces moments de la vie quotidienne. Leur organisation de manière à ce qu'ils soient de plus en plus passionnants, c'est ce que on va appeler les situations. Une situation, c'est une sorte de pic comme ça dans la vie quotidienne, un pic d'intensité émotionnelle, d'intensité poétique, où on traverse un moment qui nous bouleverse. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une aventure particulière, mais tout ça, ce sont des situations. Comme ils l'écrivent à l'époque, l'important c'est pas que des aventures nous arrivent, c'est qu'on les fasse arriver. Il faut faire advenir comme ça ces situations passionnantes. La construction de situation, elle demande un certain nombre de moyens, en particulier une forme de cartographie nouvelle qui permettrait d'identifier dans l'espace urbain les endroits où on peut vivre ces situations, les endroits privilégiés dans lesquels on peut ressentir des choses plus fortes que d'autres. Donc ils vont faire, notamment, c'est ce que vous voyez sur la couverture du livre, à partir des plans de ville existants, ils vont découper les quartiers qui sont les plus intéressants, et puis ils vont les réagencer avec des flèches qui indiquent les parcours qui peuvent mener de quartier en quartier, donc agencer une dérive. Et ces nouveaux plans, ils vont les appeler des plans psychogéographiques. Psychogéographiques, c'est l'influence de l'environnement urbain, de l'environnement bâti sur les états d'âme, sur les états psychiques. Ils vont créer là une sorte de science. Alors c'est une science un petit peu parodique, hein, ils le font évidemment avec humour, mais sur lesquels ils accumulent un certain nombre de textes théoriques qui sont très intéressants puisque ce sont des textes qui à la fois s'inscrivent dans une tradition, on peut dire romantique, celle de Rousseau, celle de Baudelaire, enfin c'est la tradition des poètes marcheurs, mais qui s'inscrit aussi dans une critique très forte de la ville moderne, de la ville contemporaine telle qu'elle est en train de se construire à l'époque, puisque pour contextualiser, hein, on est dans les années 50, c'est le moment où la France, après les destructions de la Seconde Guerre mondiale, se reconstruit, mais se reconstruit en fonction de théories architecturales et urbanistiques qui sont celles de Le Corbusier, qui sont mises en application par le ministère de la Reconstruction à l'époque, et qui reviennent à une forme de rationalisation totale de l'espace urbain dans lequel tous les parcours, tous les trajets des citadins sont étroitement normalisés, standardisés, calculés à l'avance. Donc pour les situationnistes, la dérive et la psychogéographie sont des manières de critiquer en fait cette rationalisation de l'espace urbain qui se fait à cette époque-là.
Il y a déjà une tentative de récupération du mouvement dès cette époque, quand des galeristes vont les démarcher pour organiser de grandes expositions sur justement la psychogéographie. Comment ils réagissent à ce moment-là ?
Ce qu'il faut voir, c'est que là-dessus, les situationnistes ont été très clairs. La dérive et la psychogéographie ne sont pas des formes d'art. C'est pour ça que j'ai un petit peu tiqué, entre guillemets, quand vous avez dit des performances. La performance, c'est encore un type d'activité artistique qui est encadré, qui est défini, qui a ses protocoles, etc. Alors que la dérive et la psychogéographie, par essence, ne s'adressent pas à quelqu'un d'extérieur, ne s'adressent pas à un spectateur, à un public. On fait de la dérive et de la psychogéographie d'abord pour soi-même et pour sa propre petite communauté. Quand des gens commencent à s'intéresser à la dérive et à la psychogéographie et à y voir quelque chose d'artistique, et de fait les documents qui ont été accumulés ont des qualités graphiques et visuelles qui peuvent leur faire ressembler à des œuvres d'art, Les situationnistes, tout de suite, disent non, on ne rentre pas dans ce jeu-là. Donc ils ont été assez fermes avec, avec la, ce qu'on pourrait dire la mise en spectacle ou de leurs œuvres, enfin de leurs réalisations. Ils ont toujours refusé de les considérer comme des œuvres et de rentrer avec elles sur le marché de l'art ou dans l'institution artistique. Ce qui n'empêche pas certaines ambiguïtés, c'est-à-dire qu'ils viennent tous de la sphère artistique, donc certains, par exemple, vont faire des expositions personnelles d'œuvres détournées, par exemple. Certains vont aller exposer en galerie, certains vont collaborer avec des musées, mais il y aura toujours un moment de rupture, un moment où ça se passe mal, justement parce qu'ils cherchent à sortir de ce champ-là. Et puis, il faut dire aussi que Guy Debord, qui est peut-être celui qui a la vision la plus claire de ce que doit devenir le mouvement, est aussi celui qui va progressivement, de manière parfois brutale, hein, le radicaliser, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une intervention sur un terrain trop artistique, Debord recadre le débat et parfois même n'hésite pas à pousser au départ, à exclure certains membres du mouvement qui veulent rester dans la sphère artistique.
C'est combien de membres, hein, l'International Situationniste, c'est combien de membres qui ont été exclus ?
Alors, je crois que le chiffre total de membres du mouvement, c'est 70, si mes souvenirs sont bons, mais sur toute la durée du mouvement, c'est-à-dire de 1957 à 1972, là où je parle de l'International Situationniste, et tout en sachant, comme vous l'avez rappelé, qu'il n'y a jamais plus de 15-20 personnes simultanément à l'intérieur du mouvement, donc il y a un gros... un aller-retour, il n'y a pas de retour en fait, c'est plutôt un renouvellement permanent des troupes, mais à l'intérieur du mouvement. Et sur la totalité des membres du mouvement, on considère habituellement, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais que les deux tiers ont été exclus et que le tiers qui reste a démissionné. Donc il est resté à la fin du mouvement seulement trois personnes, dont deux étaient vraiment actives. Donc vous voyez que on parle vraiment d'une minorité, hein, c'est une minorité active, une minorité révolutionnaire, qui pourtant a engendré des choses assez massives.
Donc c'est une minorité qui communiquait avec d'autres minorités politiques de l'époque, parce qu'il y avait des échanges qui se faisaient avec, notamment sur Bordeaux avec Jacques Ellul, qui écrivait régulièrement à Guy Debord, dans un premier temps parce qu'il voulait intégrer l'International Situationniste.
Oui.
On retrouve d'ailleurs des éléments communs, en tout cas dans la pensée, sur la critique de la technique, même si elle n'est pas formulée directement comme ça, avec ces termes-là chez Debord ou chez d'autres écrivains en fait, situationnistes. Il y a aussi un rapprochement avec Castoriadis et Le Fort à l'intérieur de Socialisme ou Barbarie, qui était là un groupe politique, qui n'avait rien d'une avant-garde artistique, et avec un intérêt pour Debord de monter un groupe qui s'appelait Pouvoir Ouvrier.
Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez bien tout ce que je décris là pour les situationnistes, c'est quelque chose qui a soit une portée immédiatement pratique, c'est-à-dire on fait de la dérive, on fait de la psychogéographie pour soi, soit qui est une dimension plus utopique, c'est-à-dire que très rapidement, ils en viennent à la formulation d'un urbanisme alternatif, par exemple. Comment est-ce qu'on pourrait créer des villes nouvelles pour vivre de cette manière-là ? Tout ça est un petit peu dégagé de la réalité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passerait à cette société. Il y a énormément d'obstacles qui existent dans la société française et même dans les sociétés occidentales ou les sociétés modernes, on va dire, dans les années 50. Ces obstacles qui sont de plusieurs types. Il y a des obstacles qui avaient déjà été analysés par les marxistes, qui sont tout simplement l'existence d'une société de marché, avec un État autoritaire, en particulier avec le retour au pouvoir de Gaulle. Donc il y a des obstacles de ce type, politiques et économiques. Et puis il y a aussi des obstacles qui sont liés au mode de vie qui est en train de se diffuser dans les sociétés de cette époque-là, du fait de l'émergence de la société de consommation. Un mode de vie qui est centré sur la cellule familiale, sur le domicile, sur la télévision, ou bien si on sort du domicile et du travail, sur une société de loisirs qui est en train de s'organiser pour encadrer au maximum les loisirs des gens, avec le Club Med, avec des activités de ce type-là. Donc finalement, il y a une sorte de verrouillage de la société qui empêche la réalisation de cette utopie situationniste. Donc ils se rendent compte de ces obstacles et là, ils se disent... On a besoin maintenant de deux choses, c'est-à-dire qu'on a une utopie, on a une idée de ce qu'il faudrait, de ce à quoi il faudrait arriver comme type de société, donc société de la dérive permanente, de l'abolition du travail, mais il faudrait qu'on sache, qu'on comprenne mieux ce qui fait obstacle à ce projet social dans la société contemporaine. Le capital, l'État, la technologie, effectivement, ils vont petit à petit s'en rendre compte. Il y a aussi nécessité pour eux de comprendre les moyens de transition d'une société à l'autre. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit révolutionner cette société en ayant une action à l'intérieur de partis de masse, comme le Parti communiste ? Est-ce qu'on doit devenir des militants révolutionnaires ? Ou bien, et c'est vers ça qu'ils vont s'orienter, ou bien est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt de commencer à changer la vie quotidienne ici et maintenant, pour soi-même, de faire exemple, de propager par des scandales, par des actions de subversion, cette autre manière de vivre ? Et petit à petit, de proche en proche, comme ça, de dissoudre les structures de la société existante jusqu'à produire une crise révolutionnaire. Et donc, c'est cette option-là hein, qu'ils vont choisir. Et il leur manque quand même des outils intellectuels pour comprendre la société de l'époque. C'est-à-dire, quand on regarde les textes de Debord et des situationnistes dans les années 50, c'est un marxisme... Sans être trop méchant, mais c'est un marxisme un peu vulgaire, c'est-à-dire que c'est un marxisme qui est souvent décalqué de ce que propage à l'époque le Parti communiste et surtout les mouvements trotskistes. Il voit bien que ces outils qui ont quand même été conçus il y a 70 ans, 80 ans, n'arrivent plus à décrire la réalité sociale de l'époque. Et donc, ils vont se tourner vers des penseurs qui sont leurs contemporains, pas souvent leurs aînés quand même. Des gens comme Henri Lefebvre, qui a écrit La critique de la vie quotidienne, des gens comme Cornelius Castoriadis, sur lequel je vais revenir après, effectivement, et puis Jacques Ellul. Jacques Ellul, c'est plutôt lui qui prend contact avec eux, mais le dialogue après va leur permettre de se nourrir de sa pensée, de ce qu'il est en train de développer. Et c'est par agrégation de ces différents éléments empruntés à des théories de la société, qui parfois sont très dissemblables, qui vont construire leur propre critique de la société de l'époque, la critique de ce qu'ils vont appeler la société du spectacle. Dans les faits, c'est pas seulement une lecture de texte, c'est-à-dire que les situationnistes ne se bornent pas à lire la critique de la vie quotidienne d'Henri Lefebvre, ou bien les textes de Castoriadis dans le groupe Socialisme ou Barbarie. Ils vont à la rencontre de ces gens-là, c'est-à-dire par exemple Henri Lefebvre, il le rencontre, il passe des soirées avec lui sur le même mode qu'ils pouvaient en passer entre eux, c'est-à-dire des soirées festives, joyeuses, avec de longues discussions jusqu'au bout de la nuit. Il y a un véritable échange, c'est-à-dire qu'on voit la pensée de Lefebvre se modifier après sa rencontre avec les situationnistes, de même que la leur se modifier au contact des idées de Lefebvre. Avec Castoriadis, l'engagement va plus loin, c'est-à-dire que non seulement il le rencontre, mais il décide même de tenter quelque chose avec le groupe Socialisme ou Barbarie, c'est-à-dire de tenter, et ça c'est ce que je décris dans le livre, la fusion assez inédite dans l'histoire d'un mouvement artistique ou post-artistique révolutionnaire avec un mouvement politique révolutionnaire, c'est-à-dire tenter la fusion entre l'international situationniste et Socialisme ou Barbarie. Pendant un an et demi, Debord va même militer, ce qui est assez étonnant. Quand ça a été révélé il y a une dizaine d'années à peu près, beaucoup de gens n'y croyaient pas, parce qu'on ne voyait pas du tout Debord en militant. Bon, il faut dire que son militantisme était très particulier, mais il est quand même passé pendant près d'un an à l'intérieur de Socialisme ou Barbarie, ce qui lui a permis d'apprendre énormément sur l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire de ses minorités les plus radicales, ce qu'on appelle les conseils ouvriers notamment. Ça lui a permis aussi d'emprunter à Castoriadis, par exemple, la fameuse distinction qui, d'après lui, est centrale dans les sociétés contemporaines, plus forte que celle entre la bourgeoisie et le prolétariat, c'est la distinction entre les dirigeants et les exécutants. Distinction qu'on va retrouver dans les textes situationnistes après. Finalement la rupture intervient. Debord se rend compte que Castoriadis veut garder la main sur sa propre organisation, qu'il n'est pas prêt à s'ouvrir à des thématiques comme la critique de la vie quotidienne justement, et donc il y a un échec de la fusion entre ces deux groupes et le mouvement situationniste continue son chemin dans les années qui suivent. Avec Jacques Ellul, la rencontre est moins directement chaleureuse. C'est-à-dire qu'elle se fait beaucoup plus par correspondance, et aussi parce qu'il y a des contacts entre les situationnistes et les étudiants d'Ellul, notamment Lacoula Barthes, qui fait un passage par Bordeaux à cette époque-là, avant de regagner Strasbourg. Et donc, les situationnistes et Ellul dialoguent d'une manière qui est très intéressante. C'est-à-dire que Ellul va leur emprunter le concept de spectacle que Debord va développer quelques années après. Et les situationnistes vont commencer à s'interroger sur la question technique. Ce qu'il faut voir, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, si le rêve d'abolition du travail repose vraiment sur une adhésion un peu naïve à l'idéal du progrès technique. Ils sont complètement plongés dans leur époque. Hein. Ils voient la société productiviste des années 50 qui est en train de se mettre en place. Ils partagent un peu cet enthousiasme des Trente Glorieuses pour le progrès technique. Et Ellul est quand même quelqu'un qui leur remet un peu les idées en place. La lecture des livres d'Ellul leur permet d'acquérir une petite distance par rapport à ça. Et c'est une distance qui va grandir au fur et à mesure que les années passent. Donc la rencontre avec Ellul, c'est... je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 62-63. En 68, une partie des textes situationnistes, pas la totalité, mais une partie, tiennent compte d'une certaine critique de la technique. Et chez Debord, c'est un peu la thèse que je défends, mais je pense que chez Debord, en fait, cette critique-là fait son chemin intellectuel jusque dans les années 70 et 80, jusqu'à le conduire à devenir bien plus et bien autre chose qu'un auteur simplement. Anticapitaliste, comme on pourrait dire.
Il y a une notion qui est très très importante, c'est la notion de spectacle, hein, qui est peut-être une des notions les plus floues des mouvements en fait de la seconde moitié du XXe siècle. Qu'est-ce que c'est le spectacle au sens debordien du terme, hein?
Oui. Donc effectivement, La société du spectacle, c'est le grand livre de Debord qu'il écrit. Il met 4 ans à l'écrire. Le livre paraît en 1967 chez Buchet-Chastel. Paradoxalement, c'est pas le livre qui a le plus de succès produit par un situationniste à la veille de 68, parce que le grand livre des situationnistes, celui qui a le plus de succès public à la veille de 68, c'est le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Van Eghem, qui se vend beaucoup plus. Et d'ailleurs, quand on regarde les slogans sur les murs en mai 68, il y a plusieurs phrases qui sont empruntées à ce livre directement. Alors que le livre de Debord se diffuse aussi, hein, il connaît une réelle réception, notamment dans les milieux politisés, mais il est moins diffusé à l'époque. Aujourd'hui, on a presque l'impression que ça s'est inversé, en fait. Alors qu'est-ce que c'est que le spectacle pour Debord? Pourquoi est-ce qu'on vit dans une société du spectacle? Le raisonnement de Debord est le suivant. Je dirais que le concept de spectacle chez Debord part d'une critique de l'œuvre d'art. C'est-à-dire que Debord se pose la question de ce qui est insatisfaisant dans une œuvre d'art. Lorsqu'on est face à un tableau, face à une sculpture, face à un film, on vit les choses intensément en regardant la représentation qui nous est donnée à voir, mais en même temps il y a une sorte d'obstacle à l'intérieur même de la représentation qui nous empêche d'y participer activement et complètement. C'est le principe même de la représentation, on est séparé de ce qu'on voit. Mais c'est aussi parce qu'on est séparé de ce qu'on voit qu'on peut y participer effectivement. Et pour Debord, c'est une limite interne de l'œuvre d'art, et c'est la limite que les avant-gardes artistiques ont essayé de transgresser. C'est-à-dire que le surréalisme, le dadaïsme, le futurisme aussi à sa manière, ont toujours essayé de passer au-delà de la représentation et d'entraîner les gens à agir. C'est aussi ça la vocation du scandale artistique, hein. C'est on révolte les gens pour les faire sortir de leur état de passivité. Et ce que dit Debord, c'est que finalement, toute la société... dans laquelle nous vivons est construite sur le même modèle, c'est-à-dire que dans notre vie quotidienne, on nous donne à voir des images, des représentations, la publicité, les séances de débat à l'Assemblée nationale, la vie interne des partis politiques, le cinéma, la presse, les mass médias de manière générale. Tout ça, ce sont des images et des représentations qu'on nous donne à voir et auxquelles nous nous identifions. Nous nous identifions effectivement, nous voyons un leader politique et on se reconnaît en lui. On voit un produit qui est mis sur le marché et on s'identifie au mode de vie dont il est porteur. On a envie de vivre exactement comme vivent les gens qui ont ce produit dans les publicités. Et donc on a envie de se mouler en fait à l'intérieur de rôles sociaux qui sont mis en circulation de cette manière-là. Sauf que ce que dit Debord, c'est que cette identification fait obstacle à une réelle intervention dans notre vie quotidienne pour vivre de manière différente. Le spectacle, c'est ce que nous regardons, ce à quoi nous nous identifions, mais qui nous empêche d'agir, qui nous maintient dans un état de passivité. De passivité, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est complètement inerte. Au contraire, en fait, le spectacle, nous, d'une certaine manière, nous met en mouvement, puisqu'on s'identifie à des rôles. C'est un travail de s'identifier à des rôles. C'est un travail de mimer des figures qu'on a devant soi, de mimer des styles de vie. Mais fondamentalement, sur le plan politique, sur le plan de notre vie sociale, nous restons passifs au sens où nous n'intervenons plus dans la vie quotidienne pour la transformer, pour réagir à des choses qui pourraient être indignes, révoltantes ou autres. Voilà ce que désigne le concept de spectacle chez Debord. Donc c'est un concept qu'on peut décliner dans la sphère économique, bien sûr. C'est une critique de la société de consommation. C'est une critique de la publicité, une critique du marketing, ce qu'on n'appelait pas encore le marketing à l'époque. Mais c'est aussi une critique de la politique. C'est une critique de la politique parlementaire, des formes de représentation parlementaire, ou partisane, ou syndicale, puisqu'il y a aussi une critique des syndicats qui est très forte chez les situationnistes. Et puis, c'est une critique de la culture, des modes de vie, de manière générale. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais oui.
Il y a un terme qui revient beaucoup depuis le début de cette rencontre, c'est la notion de scandale. On ne peut pas tous les évoquer, parce que là, on n'a pas, malheureusement pas le temps. Il y en a un qui est resté vraiment dans l'histoire, c'est ce qui s'est passé à Strasbourg en 1966, qui n'est pas le fait directement de situationnistes. Et c'est le premier scandale situationniste qui n'est pas directement le fait des situ. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé en 66 à Strasbourg ?
C'est les prodromes de mai 68, même s'il y en a beaucoup d'autres. Je ne dis pas que c'est la cause unique, évidemment, mais c'est un événement marquant. Ce qui se passe, c'est qu'à partir de 63-64, les écrits situationnistes commencent à circuler pas mal, non plus dans le milieu simplement culturel ou artistique, mais dans un milieu plus politisé. Et ils se diffusent et ils sont lus notamment par des jeunes qui à l'époque sont un peu en rupture de banc, qui ne se reconnaissent plus dans les vieilles organisations politiques, l'Union des étudiants communistes, l'UNEF, ce genre de structures politiques qui sont un petit peu dépassées, qui sont porteuses aussi de beaucoup d'aliénation. Ces jeunes lisent les écrits situationnistes et puis s'approprient en fait non seulement les idées mais les méthodes. Et ils se disent, tiens, si on provoquait, pour parler vulgairement, si on allait foutre un petit peu le bordel. Et donc, comme ce sont des étudiants, ils se disent, on va faire ça à l'université. Donc ça commence à Strasbourg. Il y a un petit groupe d'étudiants qui se présentent aux élections locales de l'UNEF, avec comme programme la dissolution de l'UNEF. À l'époque, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'étudiants qui votent. Donc ils se font élire assez facilement. Une fois arrivés aux fonctions, ils font ce qu'ils avaient annoncé, c'est-à-dire qu'ils dissolvent l'UNEF à Strasbourg, et puis ils récupèrent l'argent de la caisse, puisqu'il y avait bien sûr des finances. Et avec cet argent-là, ils vont financer la publication d'un opuscule, d'une brochure, qui s'appelle « De la misère en milieu étudiant, considéré sous ses aspects psychologiques, sexuels, etc. » C'est un très long titre. Et c'est une brochure qui cherche, pour le coup, à être le plus scandaleuse possible, puisqu'ils sont attaqués en bloc les autorités universitaires, les professeurs, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui sont tous jugés comme étant des sortes de rouages idéologiques de la société dominante. D'une manière générale, c'est toute la société de l'époque qui est critiquée dans ses aspects politiques, économiques, sexuels aussi, la question du mode de vie. À la fin de cette brochure est posé de manière très, très dure un projet révolutionnaire de bouleversement total, non seulement des structures sociales, mais du mode de vie quotidien de la population. Donc c'est une brochure qui a un aspect extrêmement libertaire, anarchisant. Les situationnistes commencent à l'époque aussi à découvrir les anarchistes en parallèle des traditions marxistes. Le comble, moi je dirais que le comble de la brochure, c'est que c'est aussi une attaque de ceux qui sont les premiers destinés à la lire. C'est une attaque extrêmement violente contre les étudiants eux-mêmes, qui sont décrits comme les êtres les plus passifs du monde, comme de véritables idiots. Donc c'est tout est fait pour les pousser à l'action en les révoltant, en fait, en les indignant. Cette brochure est distribuée le jour de la rentrée universitaire à toutes les autorités universitaires, les professeurs, l'administration de l'université de Strasbourg, la direction, le doyen, etc. Toutes les brochures sont distribuées et à l'époque, on faisait ça. Quand il y avait l'ouverture de l'université, il y avait aussi les autorités locales. Donc, il y a le préfet, le maire, etc. Donc, tout le monde reçoit cette brochure. Et tout le monde apprend par la même occasion que l'UNEF locale a été dissoute et que cette brochure a été publiée avec l'argent de la caisse. Donc, dans la presse de l'époque, ça fait un scandale monstrueux, d'abord à l'échelon local, puis progressivement à l'échelle nationale. Et l'effet recherché est obtenu. On ne parle plus que de ça et tout le monde cherche à se procurer cette fameuse brochure qui est aussi scandaleuse. Et cette brochure va être imprimée à des dizaines de milliers d'exemplaires et va circuler sur tous les campus en France dans la période 66-68. Et elle va contribuer à faire circuler les idées situationnistes. Pour mémoire, la dernière phrase de la brochure, elle dit « Il faut vivre sans temps mort et jouir sans entrave ». C'est la phrase qu'on va retrouver sur les murs en mai 68. Cette brochure, elle a été écrite par ce petit groupe d'étudiants de l'UNEF, mais comme eux-mêmes s'estimaient pas assez forts stylistiquement, etc., ils ont demandé l'aide de plusieurs membres de l'Internationale situationniste qui les ont aidés. Donc elle est signée par des étudiants de Strasbourg et par des membres de l'Internationale situationniste.
Ce qui se passe en 68 à Nanterre ? Enfin, là, on passe encore un an et demi après.
Alors oui, la transition entre les deux est simple. C'est que dans le sillage de cette action, beaucoup de petits groupes d'étudiants se forment dans plusieurs universités, à Nantes, un petit peu partout en province, à Paris. Et c'est des groupes d'étudiants qui se forment sur la base des théories et des méthodes situationnistes. À Nanterre, alors l'université de Nanterre à l'époque c'est une université qui est toute neuve, qui a été construite donc dans la région parisienne avec une volonté vraiment moderniste, c'est-à-dire on recrute des enseignants qui sont connus pour leurs idées critiques, leurs idées de gauche, moderniste aussi dans l'architecture puisque c'est une architecture façon Le Corbusier, assez brutale d'ailleurs, qui tranche d'ailleurs très fortement avec les bidonvilles qui sont au même endroit dans lesquels vivent les travailleurs immigrés. Donc là aussi, un effet de contraste qui va avoir de l'importance pour la suite des événements. Et donc, dans cette université de Nanterre, le petit groupe d'étudiants qui se forme va s'appeler les Enragés, en référence aux Enragés de la Révolution française. Ce sont quelques étudiants dont la moitié d'ailleurs ne viennent pas aux cours, sont là juste pour récupérer les bourses. Et ce sont des étudiants qui sont dans une attitude de contestation radicale. Contestation bien sûr des professeurs, des autorités universitaires, mais aussi contestation de cette frange critique de l'intelligentsia et des étudiants d'extrême gauche. Donc, à la même époque, va se créer le mouvement du 22 mars avec Cohn-Bendit. Les Enragés, ont des rapports assez conflictuels avec le 22 mars. Parfois, ils les rejoignent lorsque le 22 mars entame une action qui leur semble assez radicale. Parfois, au contraire, ils vont critiquer très durement certains aspects crypto-réformistes, on pourrait dire, du mouvement du 22 mars, ou la tendance, par exemple, de Cohn-Bendit à une certaine affection pour les médias et la starification. Ils vont avoir des rapports comme ça un peu tendus, mais c'est la dialectique entre ces deux pôles, le 22 mars et les Enragés, qui va notamment faire basculer les événements en mars-avril-mai, en fait, pour mémoire, la première manifestation dans le quartier latin, la première manifestation étudiante qui se clôt par des affrontements avec la police, c'est une manifestation pour soutenir les étudiants qui avaient été convoqués devant le conseil de discipline de l'Université de Paris. Parmi ces étudiants, on a Cohn-Bendit pour le 22 mars, et moins connu, mais important, René Rizel pour le groupe des Enragés de Nanterre. Donc voilà comment va se faire le basculement en fait, vers la révolte de mai 68. Ces étudiants-là sont convoqués devant le conseil de discipline, une manifestation de soutien s'engage, la police intervient et puis arrivent les événements que vous connaissez. Donc ça c'est le 3 mars si je me souviens bien, le 3 mai pardon, le 3 mai 68.
Il y a une espèce de raté quand même qu'on lui situe en mai, où on va dire la voie leur était largement ouverte pour justement avoir une espèce d'explosion médiatique, même s'ils ont toujours refusé ça. À quel moment, en fait, alors que tout était fait pour que ça réussisse, ils se retirent. Enfin, ils se retirent, ils sont toujours présents, mais il y a un moment où les enragés... On sait que Rizal, en fait, qui avait été beaucoup pris en photo au début des événements, parce qu'il avait un look de rocker, qui passait bien, en fait, dit, ben non, je laisse ça à Cone Bandit. Les tracts, si tu continues à circuler, il se passe quelque chose à Nantes avec la première occupation d'usine, qui est là aussi largement pilotée par les situationnistes, et pourtant, ça va pas plus loin. C'est une situation parfaite, pourtant, mai 68. C'est quasiment tout ce que Debord, Van Hegem et les autres situs avaient espéré, ou en tout cas, tout fait pour que ça arrive. Pas forcément à ce moment-là, mais on peut voir que pendant 10 ans, il y a une espèce de prévision des événements de mai.
Oui, c'est un paradoxe, en même temps, ça n'en est pas un. Alors, juste pour rappeler, parce que c'est pas assez connu... Après les premières émeutes donc dans le quartier latin, la décision est prise au terme d'une grosse manifestation d'aller occuper la Sorbonne, que le malheureux Pompidou avait décidé de réouvrir pour calmer les esprits. L'occupation de la Sorbonne a lieu à partir du 13 mars, du 13 mai décidément. Et donc le 13 mai, dès le premier jour de l'occupation de la Sorbonne, ce sont les enragés et les situationnistes qui sont élus au comité d'occupation, élus par l'Assemblée générale des étudiants qui sont dans les bâtiments, qui sont élus donc comme les représentants du mouvement. Aussitôt, à partir du moment où ils sont élus, ils mettent en place un régime de démocratie directe stricte. Donc démocratie directe, c'est-à-dire que... C'est une assemblée qui discute et décide en permanence sur place, sans jamais déléguer ses pouvoirs de décision et d'action à des représentants qui auraient une vocation fixe et pérenne. Donc ça veut dire que chaque jour, il y a une nouvelle assemblée générale qui élit un nouveau comité d'occupation, évidemment sur la base de ce qui a été fait la veille ou l'avant-veille. Donc les situationnistes vont mettre en place ce système de démocratie directe, qui pour eux est aussi la forme de structure politique que devrait adopter la société à mettre en place. Et puis ce système fonctionne pendant 3-4 jours, et assez rapidement ils se rendent compte qu'ils sont en but aux manœuvres politiques de tous les autres groupes d'extrême gauche qui essaient de s'emparer de la direction du mouvement. Donc les trotskistes, les maoïstes, les étudiants communistes, enfin voilà, il y a une sorte de bouillonnement permanent avec des groupes qui essaient de s'approprier certaines des fonctions de la vie quotidienne de la Sorbonne pour faire pression sur les assemblées. Donc toutes ces manœuvres, toutes ces manipulations déplaisent profondément aux situationnistes et ils finissent par, comme acte de rupture, par poser leur démission et par ne plus se représenter au comité d'occupation de la Sorbonne. Donc ils se retirent, en fait. Ils partent occuper un autre bâtiment qui est dans le quartier latin, qui est l'Institut pédagogique national, qu'ils vont occuper jusqu'à la fin de mai 68. Et leur action va évoluer, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de fédérer autour de tous les gens qui sont en action avec leurs idées. Ils vont fonder un nouvel organisme qui s'appelle le Comité pour le maintien des occupations, dont la tâche va être de continuer à populariser la critique portée par les situationnistes, et qui maintenant est une critique en temps réel, hein, au jour par jour, critique des événements, des manœuvres politiques, du gouvernement, de tout ce qui est en train de se passer, et en même temps de soutenir les occupations, qui effectivement... les occupations d'usines qui ont déferlé sur la France. Hein, en très peu de jours, on se retrouve avec 1 million de grévistes, et puis aux alentours du 22 mai, en fait, il y a tellement de grévistes qu'on ne peut plus les compter. Ces occupations qui ont été lancées dans le sillage de l'occupation... alors, il y a Nantes, et puis il y a aussi, dans la région parisienne, les grandes usines de Renault qui se mettent en grève avec occupation et séquestration du directeur. Donc, ils font... du soutien à ce mouvement d'occupation dans les usines. Mais on se dit, donc ils se sont retirés du comité d'occupation de la Sorbonne, donc ils ne sont plus au centre symbolique ou au centre médiatique du mouvement. Finalement, c'est assez cohérent, puisqu'ils ne veulent pas être au centre du spectacle. C'est-à-dire, ils ne veulent pas devenir eux-mêmes une représentation, ils ne veulent pas à laquelle on pourrait s'identifier. Hein. Ils ont peur de devenir eux-mêmes des stars. Donc il y a un retrait, mais qui n'est pas un retrait. C'est un retrait stratégique, en fait, ce n'est pas une dérobade. Il continue à être actif sur le terrain. Et cela jusqu'à la mi-juin 68, où là, il voit que bon, le mouvement a largement reflué, que la partie est finie pour le moment, et qu'il donc, il s'agit de se mettre à l'abri. Par la suite, c'est ça aussi, cette volonté de ne pas devenir des stars, qui va conduire assez largement les débats à l'intérieur du mouvement dans les 3 années qui suivent. C'est cette volonté d'éviter toute mise en lumière trop importante qui pourrait entraîner tout un tas de gens à se vouloir devenir les disciples du mouvement situationniste et à se mettre à recruter des troupes dont on ne saurait que faire. Puisque le principe dans le mouvement situationniste, c'est qu'on est autonome, on agit et on pense par soi-même, et donc il n'y a pas de disciples à l'intérieur du mouvement. Il n'y a pas de situationnisme. Il y a des situationnistes, mais il n'y a pas de situationnisme. Effectivement, il y a un retrait réel de la part des situationnistes dans cette fin du mouvement de mai 68.
Alors, il n'y a pas de situationnisme, pourtant il y a beaucoup de suiveurs, il y a beaucoup de gens qui se sont inspirés directement, et puis il y a beaucoup de gens qui continuent à s'en réclamer, même encore aujourd'hui. Oui. Comment se passe justement cette évolution ? La partie artistique est souvent occultée et ne se limite que la partie théorique critique.
Alors, effectivement, c'est quelque chose que je raconte dans le livre, et j'ai même consacré quasiment un tiers ou la moitié du livre à ça. Il y a un phénomène assez étrange qui se passe après la dissolution du mouvement situationniste, c'est qu'il y a plein de gens qui ont envie de refaire la même chose. Et donc il y a un mimétisme particulièrement frappant pour des gens qui justement critiquaient le mimétisme du consommateur ou du spectateur, qui va conduire des petits groupes d'activistes à reformer des sortes de sosies de l'international situationniste, qui souvent, par manque de capacité intellectuelle, par manque de volonté aussi, par manque d'habileté stratégique, vont se borner à quelques petits scandales, quelques petites actions. Bon, y a quand même quelques groupes qui ressortent de cette longue histoire, puisque c'est une histoire qui se poursuit jusqu'à maintenant. Y a des groupes qui vont avoir, par exemple, des actions contre les prisons dans les années 80, qui vont être extrêmement radicales et très fortes et très efficaces. Il va y avoir des groupes à la fin des années 90 qui vont être très actifs sur le terrain de la lutte contre les OGM, par exemple, avec là aussi la capacité à entraîner un véritable mouvement dans la population de réflexion critique sur ce qui est en train de se passer, hein, sur l'évolution de la société, capitaliste, de la société industrielle.
Et dont fait partie René Rizel, notamment.
Dont René Rizel a fait partie, puisque donc René Rizel, dans les années 70, devient éleveur de brebis. Et en fait, comme beaucoup de 68ards, il fait un retour à la terre. Il revient vers le monde rural. Et puis, il rencontre dans le monde rural la Confédération paysanne, cette gauche paysanne pétrie aux idées alternatives, écologistes. Et lui, sa réflexion a évolué, c'est-à-dire qu'il passe dans les années 70, 80, 90 à d'une critique du capitalisme à une critique de la société industrielle. C'est-à-dire que pour lui, le fait dominant n'est peut-être plus tant la question de l'économie que la question de la technologie. Et en particulier, il va voir arriver les OGM avec ses camarades paysans. Et donc, pendant un bref moment au sein de la Confédération paysanne, puis ensuite en dehors, puisque il va y avoir trop de tensions avec José Bové, il va être une des grandes figures de la résistance aux OGM à la fin des années 90, mis en prison avec Bové. Il refuse la grâce présidentielle lors de sa deuxième incarcération. Il va continuer encore dans les dernières années. Par exemple, il a refusé de faire vacciner ses animaux parce que le vaccin lui semblait être un mauvais moyen de les protéger. Donc c'est quelqu'un qui, avec un groupe qui s'appelle l'Encyclopédie des Nuisances, a essayé de poursuivre de la manière la plus radicale possible l'esprit situationniste plutôt que la lettre, je dirais. C'est-à-dire qu'il est resté fidèle non pas à tout ce langage situationniste fait de détournement, de théorie marxiste, etc., mais plutôt à l'esprit situationniste qui a un esprit de remise en question permanente de la société dans laquelle on vit, mais aussi de ses propres méthodes d'action, de propres théories qu'on a pu développer pour contester la société.
Il y a la revue Tikkun aussi qui a eu une...
Alors voilà, donc dans la dernière décennie, parmi les groupes post-situationnistes qui ont bénéficié d'un éclairage médiatique. Il y a bien sûr le comité invisible avec Julien Coupa, qui avait animé à la fin des années 90, début des années 2000, une revue qui s'appelait Tikkun, qui était une revue dans laquelle on trouvait pas mal de tics d'expression de Bordien, beaucoup de références cryptées, beaucoup de clins d'œil pour les connaisseurs, mais qui était une revue qui a entamé un certain renouvellement de la pensée post-situationniste, puisqu'il y avait beaucoup d'influences extérieures au mouvement. Par exemple, on pouvait lire beaucoup de références à Heidegger, à Michel Foucault, à des penseurs qui, a priori, sont complètement étrangers aux idées situationnistes. Et puis, parmi les contemporains, les vivants, clairement une filiation très nette avec Giorgio Agamben, qui est un philosophe post-marxiste italien, qui est un peu le compagnon de route de Tikkun, puis du comité invisible. Et donc là, bon, effectivement, ils ont été mis en lumière par cette histoire du sabotage des lignes de TGV il y a 10 ans maintenant. Et dont le procès vient de s'achever là il y a quelques semaines. Je pense que vous avez tous suivi ça. Procès qui s'est achevé par l'acquittement de toutes les personnes qui avaient été inculpées par le ministère de l'Intérieur.
Tout le monde s'est un peu approprié les idées de Debord et des autres situs. Après 68, il y a eu une espèce de confusion idéologique. On voit même à l'extrême droite des groupes proches de l'Action française, qui se réclame justement de la pensée situ, quelqu'un comme Alain de Benoît aussi, qui a essayé à plusieurs moments de s'accaparer ces idées-là. Comment Debord lui-même, de son vivant, a géré ça, et comment les autres, ceux qui sont toujours vivants d'ailleurs, vivent avec ceci, en fait, avec cet héritage assez lourd à porter malgré tout, et peut-être un peu même plus grand qu'eux par moment.
Alors, il y a plusieurs questions. C'est une question à tiroir. Donc, effectivement, il y a une postérité situationniste qu'on retrouve dans plein de domaines différents. Il y a les domaines politiques, mais avant même de parler de domaines politiques, il y a par exemple une récupération dans les milieux publicitaires, dans les milieux du journalisme culturel, on va dire même dans les milieux un peu branchés. C'était, je pense que ça l'est toujours, très chic de se référer à la Société du spectacle de Debord, même si on ne l'a pas lu et qu'on ne sait pas ce que c'est. Ça fait partie de toute cette atmosphère de 68 qui est devenue un peu le bain culturel des 30 années qui ont suivi. Hein. Je pense aux récupérations des slogans de 68 par Leclerc, par exemple, par les supermarchés. Bon. Donc à ce titre-là, il y a eu effectivement une récupération des situationnistes dans tous ces milieux. Il y a effectivement la récupération politique dont on parlait, alors, qui se fait de manière très large, c'est-à-dire que à l'extrême gauche, il y a de nouvelles franges politiques qui se sont développées à l'intérieur du mouvement anarchiste, dans les franges de ce qu'on appelle l'ultra-gauche, ou bien même dans le mouvement autonome, qui se sont complètement appropriées les idées situationnistes qui les ont souvent transformées, qui les ont mises à leur sauce, mais qui en ont fait des choses qui sont parfois fécondes et intéressantes. Mais bon, sans mystère, il y a aussi l'extrême droite qui est toujours dans ce jeu de fascination perpétuelle avec l'extrême gauche, hein, qui a aussi essayé de s'emparer des idées situationnistes. Alors qu'est-ce qu'elle a trouvé dans les idées situationnistes qui pouvaient être en affinité avec ces idées? Dans l'extrême droite, pardon, il y a une critique de la modernité assez souvent. Donc on peut trouver effectivement, par exemple dans les textes de Vaneghem qui questionne, qui critique le règne du quantitatif dans les sociétés contemporaines, on peut retrouver des échos avec une critique qui est portée par l'extrême droite. Par exemple, René Guénon, le terme même de règne de la quantité, c'est le titre d'un ouvrage de René Guénon. Donc l'extrême droite peut se sentir familière avec certaines des thématiques des situationnistes, bien que les situationnistes aient développé ces choses-là en dehors de toute référence à l'extrême droite, hein, pour être bien clair. Mais il y a aussi évidemment le fait que les situationnistes n'ont jamais fait aucune concession au communisme. Au communisme dans sa variante soviétique, chinoise, castriste ou autre. Tous ces régimes-là ont été dénoncés par les situationnistes très tôt comme des régimes totalitaires qui étaient contre-révolutionnaires. L'extrême droite peut aussi trouver dans cette critique du communisme quelque chose qui lui plaît. Mais après, il y a aussi une distorsion à laquelle se livre l'extrême droite sur les idées situationnistes. Donc il y a tout un tas de déformations. Elle va greffer dessus ses propres obsessions, le complot, l'antisémitisme, etc. Et donc, on reconnaît plus guère les idées situationnistes sous la plume d'Alain de Benoist ou de l'Action française, quoi. Et il me semble que il y avait encore une question.
Oui, non, c'est pour ceux qui sont toujours là, comme Van Egem, qui écrit toujours, qui est un des plus productifs, en fait, qui sort un livre tous les ans, qui a toujours cette étiquette de situationniste, alors que, techniquement, il ne l'est plus.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une nostalgie qui s'installe, et puis après, pour conclure, en fait, avec ce qui se passe maintenant, c'est un peu compliqué de... là-dessus, mais on parlait tout à l'heure d'un slogan de 68, en tout cas d'une affiche faite par les situs sur la cybernétique, avec un slogan qui était avant la cybernétique.
En attendant la cybernétique, les flics.
Qui retrouve un écho plus que particulier aujourd'hui avec ce qui se passe dans les mouvements d'occupation des universités.
Effectivement, alors donc je disais, les situationnistes sont pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais sont toujours vivants et actifs. Raoul Van Egem en est un exemple, puisqu'il a toujours une production. Alors, je pense pas que ça soit lui faire insulte que de dire ça, mais je crois qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus un écrivain qu'un théoricien politique. Il a jamais, de manière générale, il a jamais été très très, très fort en théorie. Le traité de savoir-vivre, c'est peut-être justement l'ouvrage le plus théorique qu'il a fait, mais c'est beaucoup plus quelqu'un qui a du style, qui a énormément de talent, qui a cette écriture très nietzschéenne, dionysiaque, pour la libération des sens, des mœurs, hédoniste. C'est quelqu'un qui est plus intéressant de ce côté-là. Il y a des anciens situationnistes qui continuent leurs activités au sein de structures éditoriales. On parlait de l'Encyclopédie des nuisances, qui publie de moins en moins d'ouvrages ces dernières années, mais qui a fait des choses importantes, qui a remis en circulation des auteurs un peu oubliés comme Bernard Charbonneau, Lewis Mumford, qui a fait connaître Gunther Anders en France. Et puis, sinon, il y a effectivement, de manière générale, un héritage situationniste qui est peut-être un peu lourd à porter, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, chez certains, ça va être encore une fois du mimétisme, c'est-à-dire qu'on va y faire référence de manière un peu mécanique. Chez d'autres, il va y avoir une sorte d'exaspération, c'est-à-dire que à force de trop aimer les situationnistes, on va brûler ce qu'on a adoré. Il y a pas mal d'auteurs qui sont spécialistes de ça, des auteurs qui sont extrêmement virulents contre les situationnistes, et quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'en fait ils étaient des fanatiques quelques années ou une décennie auparavant. Donc ça aussi c'est un problème, mais je dirais que la seule manière de le rendre vivant, cet héritage, de le rendre encore fécond aujourd'hui, c'est de se poser la question de ce qui est mort et de ce qui est vif à l'intérieur de ces théories. C'est-à-dire que il y a toute une partie, par exemple, des utopies architecturales situationnistes qui me semblent maintenant un petit peu datées. Et d'ailleurs, souvent, beaucoup plus proches de Le Corbusier que ce que les situationnistes eux-mêmes voulaient bien dire. Il y a toute une partie des théories situationnistes sur la libération sexuelle, sur la transformation de la vie quotidienne, qui, à mon avis, offrait un peu trop de prise à une récupération par le capitalisme, comme sous forme de discours publicitaire. C'est ce qu'on a un petit peu vu par la suite. En revanche, il y a des choses qui me semblent beaucoup plus vivantes. Et effectivement, il y a notamment à l'intérieur du mouvement situationniste une critique pas seulement du capitalisme, pas seulement de la société marchande, mais une critique de la modernité. Et ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant et à retenir. Et c'est une critique qu'on trouve déjà dans la partie artistique du mouvement, dans sa phase artistique. Une protestation contre le trop de rationalisation, contre le trop de standardisation, contre le règne de la technique. Et donc les affinités avec Ellul se font sur ce terrain-là. Et une des grandes thématiques des situationnistes, et qui me semble vraiment, pour le coup, complètement d'actualité, c'était leur critique de la cybernétique. Dans les années 60, en particulier grâce aux discussions avec Henri Lefebvre, qui s'était intéressé à la question. Ils ont vu dans la cybernétique, c'est-à-dire dans la science de l'information, hein, qui a donné naissance par la suite à ce qu'on appelle maintenant l'informatique, ils ont vu là-dedans une menace réelle pour les sociétés contemporaines. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui l'informatique pourrait devenir un vrai outil de gestion de la société qui serait tout aussi autoritaire que la police, mais beaucoup plus discret dans le sens où il susciterait l'adhésion de la population. Et donc, il voyait arriver à l'intérieur de cette société de masse qui était celle des années 60, il voyait se profiler un nouveau mode de gestion des conflits sociaux, un nouveau mode de gestion même de la vie en masse, qui serait le fait des ordinateurs, qui serait le fait des nouvelles technologies. Et en particulier, il y a une affiche qui a été produite par les enragés de Nanterre en 67, je crois, ou 68, qui est intitulée, effectivement, « En attendant la cybernétique, les flics », puisqu'en fait, le doyen de Nanterre avait fait appeler la police sur le campus pour réprimer les étudiants. Mais pour les situationnistes, ce qui se profilait derrière les flics, derrière la police, c'était une nouvelle forme de gestion de la société qui était aussi menaçante, sinon plus, que les bonnes vieilles méthodes policières et autoritaires. Et effectivement, il me semble que la postérité du mouvement situationniste, si on veut creuser, elle est dans cette critique de la modernité technique, technologique. Pour parler des échos avec aujourd'hui, je vous apprends rien, il y a eu un mouvement étudiant assez fort, enfin, quoique les médias aient beaucoup étouffé l'ampleur du mouvement. Ce mouvement étudiant, qui n'était pas d'ailleurs qu'un mouvement étudiant, puisqu'il y avait aussi des enseignants qui étaient très investis là-dedans, c'était un mouvement qui s'est fait contre, à l'origine, on l'a un peu oublié maintenant, mais contre un logiciel, c'est-à-dire contre un logiciel qui s'appelle Parcoursup, et qui attribue en fonction d'un algorithme des places aux jeunes à l'université. C'est-à-dire qu'on a laissé les machines décider de l'avenir de nos enfants. Dans le mouvement qui s'est déclenché, je trouve qu'il y a quelque chose qui réactualise, redonne une véritable acuité aux idées situationnistes et à la critique de la cybernétique dans cette critique de ce qu'on pourrait appeler une société algorithmique, c'est-à-dire où les ordinateurs ont pris le pouvoir et où ce sont eux qui gèrent notre existence sociale. Puisque je viens de Montpellier, j'en profite pour glisser cette anecdote. Pour que vous voyez à quoi sert l'informatique, quand la fac a été occupée et bloquée, ce qu'a trouvé comme solution la direction de l'université, et il semble que c'est la solution qui est en train d'être adoptée par beaucoup d'autres universités en France, c'est de faire passer les examens à distance. Et les faire passer à distance, c'est-à-dire en recourant à Internet et en faisant travailler les étudiants sur des plateformes numériques. Voilà un autre exemple de ce que c'est la cybernétique telle que la voyaient les situationnistes. C'est aussi un moyen de pacifier, de neutraliser les conflits sociaux en les contournant, en contournant les questions de présence physique et matérielle. Et alors la réponse que les étudiants ont adoptée à Montpellier, que j'ai trouvée vraiment amusante, c'est que ils ont tout simplement saboté les serveurs informatiques. Donc ils sont allés dans la salle des serveurs, ils sont revenus au physique et au matériel et ils ont saboté les serveurs. Donc comme quoi le verrouillage informatique, la contre-révolution informatique n'est pas toute puissante. Enfin, elle peut être contrée encore sur ce terrain. Dans cet acte-là, moi j'ai vu quelque chose qui, aussi bien par l'acte de sabotage que par la critique implicite de l'informatique et du numérique, quelque chose qui était peut-être plus authentiquement situationniste que beaucoup d'hommages qui sont rendus aujourd'hui dans les médias ou dans les journaux à Debord et à ses camarades.
Merci beaucoup, Patrick.
Merci. Merci.